Notre propos, si vous voulez, c'est de voir les pierres de la ville, c'est-à-dire avec quels matériaux on a construit les maisons de Brest, d'où viennent ces matériaux, comment on les a mis en œuvre, sachant évidemment que quand on veut faire une construction, eh bien, historiquement, on n'avait pas d'autres façons de faire. D'ailleurs, on prenait les matériaux les plus proches de l'endroit où on voulait faire le bâtiment, la construction, etc. Le gars qui voulait faire une ferme dans la campagne, il grattait dans la terre, il voyait là où il y avait des cailloux, il prenait des cailloux et il faisait sa ferme, etc. Donc de tout temps, si vous voulez, historiquement, depuis que les hommes ont cherché à s'abriter, à chercher d'abord un abri sous roche, en rapport avec la géologie, puis éventuellement utiliser des branchages, du bois plus ou moins taillé, plus ou moins coupé, etc., jusqu'à utiliser de la pierre ou de la terre, selon l'environnement dans lequel ils se sont trouvés, il y a un lien évidemment très fort et très naturel entre l'habitat et l'environnement, d'une façon générale, l'environnement géologique en particulier. Voilà. Donc, et d'ailleurs, pour le voyageur un peu curieux et connaisseur a minima de ce genre de ce thème, quand on voyage, on voit bien que si on traverse Rennes, ça ne ressemble pas à Quimper, ça ne ressemble pas à Paris, ça ne ressemble pas à Rochefort, etc. Les ambiances de la ville, l'ambiance minérale de la ville, ne sont pas les mêmes. Ça dépend de la géologie locale. C'est en lien avec la géologie locale. Voilà. Mais cela est vrai dans le temps historique. Et donc, cette deuxième promenade de l'après-midi, qui aurait dû être la première, se propose de voir le Brest historique. Puisque les problèmes que rencontraient les candidats à la construction au XVIIIe siècle, ou même bien avant, ou même au début du XIXe siècle, ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui étaient rencontrés au moment de la reconstruction de Brest et ceux qui sont rencontrés, qui sont posés aujourd'hui, où on a mis en œuvre des matériaux aussi sous nos pieds. Les dernières pierres mises en œuvre à Brest, elles sont sous nos pieds ici. Voilà. Alors on en parlera un petit peu, puisqu'on reviendra ici après, mais on va commencer par l'histoire. Voilà, qu'est-ce que j'avais dit d'autre pour commencer? C'est tout,
C'était
hein?
ça.
C'était ça, hein?
Pas de problème.
Pas de problème. Bon, alors, je vous propose donc d'examiner, de faire un petit transect dans ce Brest historique, qui est quand même un historique relatif, puisque c'est Saint-Martin. Il y a bien eu des constructions à Brest avant Saint-Martin, donc on ne va pas au château, hein? Mais il y aura des propositions pour le château ultérieurement, hein, on y pense. Et à Brest, les éléments minéraux, je puis dire, les plus anciens que l'on puisse voir, il y a un mur, pour ceux qui connaissent bien le château, quand vous ressortez de la visite du château par la tour Madeleine, dans le mur à gauche, il y a les restes de la construction du castellum gallo-romain avec des assises de briques. Ça a un lien avec la géologie, et des assises de pierres assez carrées, rondes, là, qui sont possiblement du granit de Saint-Renan. Alors je dis ça exprès, possiblement, parce qu'évidemment, regarder les pierres et déterminer les pierres de construction d'une ville, ça peut être à la fois facile, mais à la fois très difficile, parce qu'avec le temps, les pierres, d'abord selon la mise en œuvre et le travail fait sur les pierres, on voit plus ou moins la nature de la roche, qui est plus ou moins dissimulée par le travail qui a été fait. Et avec le temps, les lichens, la mousse, fait que l'on ne voit pas forcément très bien la roche. Et donc un géologue rencontre le même problème sur un affleurement naturel, qui se couvre pareillement de mousse et de lichen. Et donc, pour faire la géologie, pour déterminer les roches, il a un marteau et il casse la roche pour avoir ce qu'on appelle une cassure fraîche. Évidemment, l'usage du marteau est assez peu recommandé sur les monuments en ville ou les bâtiments historiques. Donc, il faut faire appel à des gens qui ont une grande connaissance de la géologie régionale, voire des régions voisines, pour savoir d'où ça vient. Et puis, il y a une autre solution aussi, qui est de fouiller les archives départementales, régionales, de la marine, de la commune, et de retrouver les documents, les dossiers de construction des bâtiments avec toutes les commandes de matériaux. Et là, on peut savoir le volume de pierre qui a été demandé à telle carrière, à tel endroit, le nom de l'ingénieur, le nom du carrier. On peut savoir qu'il y a un charroi qui a cassé une roue à tel endroit et qu'il a fallu attendre sur le chantier, etc. Tout ça, on sait. Voilà. Mais je suis, comme j'ai dit d'ailleurs, je suis très bavard, donc il faut qu'on essaye de finir avant que la pluie nous tombe dessus, pour ceux qui ont déjà été mouillés ce matin. Donc, nous allons devant l'église Saint-Martin. Et on fait attention en traversant le train. Donc, j'ai dit tout à l'heure que pour édifier des bâtiments, édifier un monument, n'importe quoi, traditionnellement, historiquement, on cherchait des matériaux sur place. Donc, le Brest ancien, évidemment, les matériaux ont été cherchés sur place et on a utilisé ce qui était à disposition. Et c'est-à-dire, bon, tout le monde connaît Brest, donc vous voyez Brest au-dessus du port de commerce actuellement, on a donc des falaises, donc comme situation classique sur plein d'endroits en Bretagne, on a de la roche qui affleure en bord de mer, largement, donc on ne se cassait pas la tête et on prenait la roche là où elle apparaissait, hein, c'est pas peine d'en chercher ailleurs. Par ailleurs, le Brest est sur un plateau là, comme ça, qui domine la mer, et ce plateau est fortement entaillé par des vallons, hein, Quérinou, la Pinfeld, etc. Et de chaque côté de ces vallons, on avait évidemment la roche qui affleurait. Alors cette roche, c'était quoi? Alors cela dit, quand on regarde, on est dans le Brest ancien ici, quand on regarde, on n'a pas l'impression que tout cela... Enfin, la pierre qui a servi à édifier tout cela n'est pas évidente et on ne sait pas forcément en quoi sont faits les murs. Bon. Alors, quelle était cette pierre qui a fleuré et quelle est cette pierre qui affleure largement à Brest? Eh bien, donc, une balade géologique. Alors là, je suis désolé pour la carte, là, ceux qui sont... Rapprochez-vous, là, ça, on se tiendra chaud. Il faut toujours une petite carte géologique. Donc, vous voyez ici, sur cette carte, Brest... toutes les couleurs, ce sont des formations géologiques. Donc Brest se trouve sur une bande, hein, qui est ici rose-violet, là, hein, un petit violet très, très pâle, d'accord? Voilà. Et vous voyez que cette formation géologique montre un étirement. Hein, et vous voyez qu'en gros, d'ailleurs, sur tout le Léon, là, hein, on a une direction privilégiée. Ça marche pas bien là, si. Une direction privilégiée de ces formations géologiques, en gros sud-ouest, nord-est, d'accord? Bon, alors, voilà. Donc cette formation sur laquelle se trouve Brest s'appelle le gneiss, c'est un gros mot, désolé, c'est comme ça que ça s'appelle, le gneiss de Brest, G-N-E-I-2-S. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un gneiss? C'est une roche qui est à la fois... cristallisé, c'est-à-dire qui montre des cristaux, du quartz, du feldspath, des mica, et orienté, hein, d'où je viens de vous montrer l'orientation de la formation. Donc c'est une roche à la fois cristallisée et orientée, c'est une roche métamorphique. Je suis obligé d'employer des mots, hein, mais enfin vous pouvez me demander d'expliquer mieux si j'explique mal. Métamorphique, ça veut dire quoi? Ça veut dire une roche qui a, pour être simple, subit des métamorphoses. Métamorphoses, tout le monde connaît, le tétard, la grenouille. Hein, bon, ben là, c'est une donc ça veut dire que c'était une roche antérieurement d'une certaine nature qui a été transformée en... Voilà. Donc ce gneiss, c'est une roche anciennement un granit qui a été transformé en un gneiss. Le granit a la même composition du quartz, du feldspath, des mica, et il a pris une orientation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une roche se transforme comme ça par métamorphisme? Eh bien, c'est que la roche est prise à un moment donné de son histoire et de l'histoire plutôt géologique de la région dans laquelle elle se trouve, dans un grand bouleversement, hein, j'essaye d'utiliser des mots simples, un grand bouleversement qui affecte toute la croûte, l'écorce terrestre, celui-là qui s'appelle la formation d'une chaîne de montagnes. Le nom savant, c'est orogenèse. Hein, une chaîne de montagne, c'est orogène. Une formation d'une chaîne de montagne qui amène de la pression, qui amène une élévation de température, qui transforme les roches. Bon, je ne vais pas en faire plus parce que ça serait après un peu embêtant. Il faut bien que j'explique un petit peu. Donc ce gneiss de Bresse, c'est un ancien granit qui a été transformé. Et il a été transformé quand ? Il a été transformé au moment où une chaîne de montagne s'est formée à l'endroit où est Léon aujourd'hui, une chaîne de montagne type Himalaya aujourd'hui, hein, c'est il y a 300 millions d'années, il y avait une grande chaîne de montagne qui depuis a été complètement rabotée, etc. Voilà. Et nous sommes actuellement, hein, pour recadrer les choses, dans aussi une période où il y a une grande chaîne de montagne à l'échelle de la planète qui est en train de se faire, qui est déjà pas mal faite, c'est la chaîne alpine. Alpine, Himalaya, les Andes, tout ça, c'est la même orogenèse à l'échelle de la planète. D'accord ? Voilà. Donc, ce gneiss de Bresse, si vous avez vu les falaises du port, il faut imaginer d'abord qu'autrefois, il n'y avait pas le port de commerce, et la mer battait complètement ces falaises-là. Il y a des tableaux au musée qui vous montrent la mer juste contre la muraille du château. Donc aujourd'hui, si vous voyez la roche en descendant au port, sous le monument aux Américains, vous voyez que c'est une roche qui montre beaucoup de cassures, beaucoup de dièdres comme ça. On voit une roche qui est assez massive, mais qui se découpe bizarrement, qui fait pas, on n'a pas l'image d'un front de taille de carrière où on a extrait et taillé de la pierre. En fait, cette pierre se taille très mal, elle se taille même pas bien du tout. Et donc, on peut taper dedans et on va sortir de mauvais moellons qui vont permettre que l'on va pouvoir...
Il faut s'arrêter quelques minutes.
Pourquoi ?
Parce que monsieur a besoin de la clé de l'église.
C'est bon, l'église est ouverte.
Ah bon, pardon. Bon, que l'on peut pas tailler, donc que l'on va empiler pour faire des murs, mais ça fera rien de bien. Voilà. Et donc, comme c'est là que l'on a pris tous les matériaux, eh bien, vous allez le voir. Là, vous ne pouvez pas le voir parce qu'on est dans les façades. Évidemment, comme c'est la mauvaise pierre qui prend l'humidité, etc. Donc, c'est enduit, il y a du ciment. Mais derrière tout ce ciment, c'est le gneiss de Bresse. Les maisons, historiquement, le bâti historique de Brest, c'est le gneiss de Bresse. Donc, si on veut le voir, il faut regarder les arrière-cours, les petites vénelles, là où on n'a pas enduit. Et on va le voir tout à l'heure. D'accord ? Et alors, comme on ne peut pas tailler, eh bien, on a cependant besoin de pierres ou de matériaux façonnés pour faire les encadrements des fenêtres, les pierres d'angle des murs, les encouragements des portes, etc. Donc là, eh bien, le gneiss de Bresse ne peut pas fournir. Donc, on va chercher un autre matériau. Et par bonheur, on en a trouvé pas trop loin de Brest. Donc, revoilà sur cette carte, ici, voilà, toujours la même carte, on a ici, vous voyez, un beau rond rouge, ici, c'est un massif de granit, c'est le granit de la Berylduth, qui est largement affleurant en bord de mer. On retrouve notre histoire de falaise de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir des carrières facilement, à partir du bord de mer. D'accord ? Et on a également au sud de Brest, dans la Rade, ici, dans le canton de Daoulas, Logona Daoulas, l'hôpital Canfrout, Daoulas, des carrières aussi, à partir d'une roche que l'on a repérée aussi depuis le littoral, qui est la quercentite. Tout le monde connaît la quercentite, ou le quercenton, hein, qui se taille très très bien. Très très bien, et dans des carrières en bord de mer. Plus à Logona, une roche complètement particulière qui est la pierre de Logona ou la pierre du rose, qui pour un géologue est une micro-diorite quartzique. Bon, laissez tomber, hein, mais c'est comme ça. Ça veut dire que c'est une roche de la famille du granit, c'est ce qu'il faut retenir. Hein, voilà. Eh bien, ces roches-là ont été aussi, elles se taillent très bien, elles ont été utilisées. Et aussi bien les unes que les autres sont dans des carrières en bord de mer, Ce qui est très intéressant aussi, parce qu'en bord de mer, on pouvait exporter la pierre facilement, en jouant de la marée, en jouant de ce que nous a appris Archimède. Et donc on pouvait facilement charger des gabarres, et les gabarres traversaient la rade, faisaient le détour par le Conquet et amenaient les matériaux à Brest pour répondre à la demande, notamment des constructions du port et de tout ce qui était le Brest, le vrai Brest historique, celui qui n'est plus là, en Siam. Hein. Voilà, donc ces pierres ont été largement utilisées, très faciles à tailler, un beau matériau et facile à transporter. Donc les quatre pierres historiques du bâti de Brest, c'est le gneiss de Brest, roche locale, mais moche, hein, pas terrible. Le granit de la Béryl Dut, très bon matériau. La quercentite, ou je dirais les quercentites, parce qu'il y a plusieurs types, et la pierre de Logona. Et alors, comme les trois mousquetaires étaient quatre, les quatre pierres de Brest sont cinq. Il y a une cinquième pierre qui est utilisée dans Brest, mais pas pour la construction, ou très anecdotiquement dans la construction, qui est le micro-granit de l'île Longue. Micro-granit, ça veut dire que c'est aussi une variété de granit et qui a été beaucoup utilisée en pavé. Et il faisait des pavés qui étaient extrêmement résistants, que l'on trouve à Quimper, que l'on trouve partout, que l'on trouve à Brest. Et ils ont même tellement résisté qu'on les trouve encore dans les caniveaux à Brest. Ils n'ont pas encore été noyés sous le béton. Et on les trouve dans les quais de La Rochelle, on les trouve partout. Ils avaient une très forte réputation des ingénieurs, des travaux publics de tous les siècles passés. Voilà. Voilà, donc les cinq pierres du Brest historique. Donc je vous propose de voir ces cinq pierres mises en œuvre dans les roches. Alors, bon, on va pas voir, puisqu'on est sur une place là, bien, bien chouette par des façades, on va pas voir le gneiss de Brest, vous avez compris. On va voir le granit de la Béryl Dut. On n'a qu'à se retourner. Le granit de la Béryl Dut, c'est celui qui forme toutes ces pierres remarquablement taillées, taillées, hein, tout simplement, de l'église Saint-Martin. Église fin 19e, néo, tout ce qu'on veut, hein, mais pas moderne pour un sou, même pour l'époque.
1881, c'est marqué sur la porte de l'église.
Voilà, merci monsieur. Voilà. Donc, pour ceux qui étaient là tout à l'heure, vous voyez, je vous disais qu'il y avait des... Non, on n'a pas parlé des angles là. Mais c'est un granit donc, qui se remarque bien par le fait qu'il est grossièrement grenu et avec des cristaux importants que l'on voit d'ici, de loin, et qui sont roses et qui donnent une tonalité générale rose à la roche. Un granit, comme beaucoup de roches, c'est du quartz, du feldspath et des mica. Hein. Donc la coloration et granit grain grenu, c'est la même racine. Donc un granit a une texture grenue, donc c'est à grain, plus ou moins grossier. Donc ça veut dire que les minéraux sont bien visibles à l'œil nu. Et donc la couleur du granit sera donnée par la couleur des feldspaths. Voilà, alors les feldspaths ici sont roses, donc ça donne une tonalité générale rose à la roche. Et ce granit-là se caractérise aussi assez bien par l'importance des enclaves qu'il y a dedans. Les carriers parlent de crapauds, parce que eux, ça les embête souvent. La pierre est moins belle quand il y a des crapauds. Mais ça n'enlève rien à la qualité, je dirais aux qualités mécaniques de la roche et à sa longévité. Donc vous voyez ici qu'il y a plein de crapauds, ces taches noires que l'on voit ici ou là, et qui sont des morceaux de... Alors le granit est une roche magmatique. Tout à l'heure, je vous ai dit que le gneiss était une roche métamorphique, et j'ai expliqué. Le granit est une roche magmatique, c'est-à-dire qu'elle provient d'un magma. Alors, pour vous, magma, ça fait appel au volcan. Alors, évidemment, le granit n'est pas une roche volcanique, mais les roches volcaniques sont magmatiques. Vous me suivez, là ? Bon. Le granit est magmatique, c'est du magma qui s'est donc formé en profondeur, mais ce magma n'a jamais atteint la surface. Alors que le magma qui alimente le volcan, lui, il atteint la surface. Et si aujourd'hui le granit est à la surface, c'est parce que l'érosion a raboté tout ce qu'il y avait au-dessus et a amené le granit solidifié, cristallisé, à l'affleurement. D'accord ? Voilà. Donc toujours, hein, les milliers de mètres de la chaîne de montagne, le granit était dans la racine de la chaîne, toute la chaîne a été rabotée, et maintenant on a le granit. Voilà. Et donc, certaines de ces enclaves sont des restes de magma antérieurs au magma granitique qui ont été disloqués et enclavés par ce magma granitique quand il s'est mis en place. Et puis les petites enclaves qui sont, vous en avez là, vous voyez, qui sont plutôt en fuseau, qui sont étirées, qui sont effilochées, là, ce sont des enclaves qui proviennent, qui sont des restes des matériaux qui ont fondu à la base de la croûte pour former, constituer le magma granitique. Vous me suivez ? Hein ? À la base de la croûte est faite en divers types de roches, et quand à la base de la croûte on arrive au niveau du manteau, la chaleur est très importante, il peut y avoir des conditions de fusion de cette croûte, et dès l'instant où il y a fusion, il y a magma, et ce magma va lui remonter dans la croûte, parce que à composition égale, lorsque le matériau est fondu, il est plus léger, donc il a tendance à monter. Et ce magma va alimenter des chambres magmatiques. Si elles restent piégées en profondeur, elles vont donner des granites ou d'autres roches grenues. Si elles arrivent à la surface, elles vont alimenter un volcanisme. Et si elles restent coincées entre les deux, elles vont former des filons. Les filons, ça va être les micro-granites ou la pierre du rose que je vous ai évoqué tout à l'heure. C'est pas trop compliqué ce que j'ai dit, là, vous me suivez ? Ça va ? Hein ? Vous pourrez me dire des trucs en aparté tout à l'heure s'il faut que je précise. D'accord ? Voilà. Donc, voilà ce granit de la Bérédute, magnifiquement mis en œuvre ici, mais quand même avec des limites, si vous voulez, il est mis en œuvre. Son truc, à lui, c'est de donner des pierres de taille. Et des pierres de taille, je dirais, de taille, c'est-à-dire de taille importante. Dans le granit de la Bérédute, on pouvait extraire des volumes très importants. La prochaine fois que vous irez à Paris, traversez à pied la place de la Concorde, on peut le faire. Et le socle de l'obélisque de Louxor est un bloc monolithique de 106 tonnes extrait des carrières de la Bérédute. Roche magnifique. Donc on va voir le granit de la Bérédute. Donc là, tous les murs sont faits. On va rentrer dans l'église. Vous allez voir quelque chose de tout à fait remarquable. Et alors avant, vous allez regarder deux autres roches. Vous voyez bien, comme moi, que les colonnettes là, les colonnettes qui forment la base du pseudo-roman, là, c'est évidemment pas la même roche que ce qui est à côté. Donc vous allez vous approcher, et si vous n'avez jamais regardé les roches des monuments, de ce type de monuments, vous avez tous regardé les calvaires. Donc vous verrez que vous allez reconnaître la pierre des calvaires. C'est évidemment la quercentite qui se taille très facilement, d'où l'usage pour quelque chose qui est plus sculpté. La quercentite est une roche donc filonienne, comme j'ai dit tout à l'heure, donc aussi magmatique, mais elle n'a pas de quartz, donc elle n'appartient pas à la famille des granites. Et comme elle n'a pas de quartz, que le quartz est un des minéraux les plus durs, elle se taille très facilement. Voilà. Donc la quercentite pour les colonnades. Et vous marcherez là sur trois marches qui sont, à l'évidence, vous allez voir, des roches grenues, parce que vous voyez tous les grains, tous les minéraux à l'œil nu, mais qui sont très sombres. Cette roche-là est une bizarrerie ici. C'est une, bon, en gros de la famille du granit, mais un peu éloignée. Et elle vient de Ploudaniel. C'est une diorite. C'est-à-dire, c'est une roche dans laquelle il y a moins de quartz que dans un granit et plus de feldspath. Bon, il faut rentrer dans des considérations un peu compliquées. Il n'y a plus de calcium, elle est plus basique, etc. Bon, donc elle est plus sombre. Hein. Et donc, elle vient de Ploudaniel, où il y avait pas de grande carrière, mais qui a fourni de belles pierres de taille, qui ont pu servir aussi à faire des pierres tombales que l'on trouve dans le cimetière de Saint-Martin. Le cimetière de Saint-Martin est une vitrine pétrographique extraordinaire, avec des pierres qui viennent de tous les pays du monde, et on voit, selon les dates des tombes, les modes. Hein, il y a des effets de mode et des pierres aujourd'hui qui viennent beaucoup du Brésil. Oui, du Brésil, d'Amérique du Sud. Alors, je ne vais pas pouvoir parler avec le micro dans l'église, ça ne se fait pas. Donc, on va rentrer dans l'église, mais juste 5 minutes en aller-retour. Vous allez regarder, vous mettez au milieu de la nef, et vous verrez que de chaque côté, il y a les colonnes les grosses colonnes qui séparent la nef des deux collatérales, là, latérales, vous allez voir que ces colonnes sont des monolithes en, énormes en diamètre et en hauteur, en granit de la Béryldute. Donc ça montre bien les possibilités assez extraordinaires de ce granit qui aujourd'hui est totalement délaissé et qui a notamment, je l'ai dit tout à l'heure puisque dans l'autre balade, n'a pas été utilisé pour la reconstruction de Brest, alors que c'était sans doute la pierre caractéristique du Brest historique qui a été détruit, le Brest de Siam. Et si vous voulez, si vous ne me croyez pas, vous avez le droit, donc vous descendrez plus tard dans le quartier de Siam, vous prenez la rue de l'Aiguillon, vous voyez là où il y avait l'ancien hôtel de l'Aiguillon et actuel le cordonnier là, Esvan, oui. Ou je sais pas, Esvan, voilà. Vous regarderez là à côté, il y a un magasin de musique ou autre, et vous verrez que entre ces immeubles qui sont les immeubles classiques du bas de Siam, vous avez une hauteur jusqu'en haut des immeubles en granit de la Béryldute. Eh bien, imaginez que toutes les façades étaient soit en chaînage d'angle, soit en pierre de taille de façade, en granit de la Béryldute. D'ailleurs, tout ce qui n'était pas tombé après la guerre, les entreprises qui ont dû démolir ce qui n'était pas tombé, ont eu beaucoup de mal à démolir, et aussi dans l'arsenal, tous les beaux bâtiments de Choquet de l'Indu qui ont été tombés, extrêmement difficiles. On aurait un patrimoine là bâti, remarquable, si d'autres choix n'avaient pas été faits. Voilà. Pardon.
Excusez-moi. Est-ce que ce mur, justement, ce chaînage qui est là, c'est pas le bout du théâtre? Moi, j'avais pensé que c'était
là,
ça.
Je ne suis pas assez compétent, il faudrait demander ça à Le Couédic ou à René Le Bihan. Hein. Ouais. Mais on se demande pourquoi il y a ce reste-là. Et alors, malheureusement, il a été peint en bas, entre les bâtiments. Quoi. Quelqu'un a dû dire, tiens, je le peins. Ouais. Alors donc, je profite du fait que la mairie m'ait demandé de faire cette petite balade pour faire un peu le forcing, pour qu'ils enlèvent la peinture et qu'on retrouve le granit de la Béryldute. Ouais.
Alors, on va aller voir les modèles. Super.
Notre propos, c'est de regarder les pierres. On ne va pas s'attarder sur autre chose. Donc voilà, si vous voulez, ces fûts, là, monolithes, une seule pierre, hein, en granit de la Béryldute. Vous voyez les enclaves dont je vous parlais tout à l'heure. Les pierres de taille aussi pour le socle. Et vous remarquerez aussi que la pierre qui est ici n'est évidemment pas la même, ça n'est pas granit de la Béryldute, du socle ou du monolithe ici. C'est un petit granit aussi, qui est un granit plus fin, vraisemblablement un leucogranit, un faciès peut-être Plouarzel ou Ploudalmézo, un granit. Alors quand le granit est un petit peu jaune comme ça, je vous en ai parlé sur le mur du quartz, c'est un leucogranit, c'est un granit à mica blanc. Hein, le mica, c'est une famille. Il y a des micas noirs qu'on appelle la biotite et puis des micas blancs que l'on appelle la muscovite. Ça dépend de la composition chimique. La muscovite étant un mica qui est plus alumineux. Hein. Bon, voilà, plus alumineux. La biotite est plus ferro-magnésienne. Hein, du fer et du magnésium. Voilà, donc ça, c'est un petit leucogranit. Voilà. Et donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Mais monsieur me disait d'attirer votre attention sur... Voilà,
sous-préfet qui a donné l'ordre de construire cette église dans ce quartier nouveau pour Brest qui venait d'être récupéré sur l'Ambazélec qui s'appelait l'Extension. Comme il était prénommé Martin, il a exigé que l'église porte son nom, c'est pour ça que c'est l'église Saint-Martin. C'est dû à une circonstance et le quartier a pris ce nom-là. À l'époque, il y avait un matériau de construction très nouveau en France qui était le béton. Cette église est l'une des premières avoir été construite en béton. Et regardez la façon dont elle a été construite, les voûtes sont quand même assez magnifiques de ce côté-là. Autre intérêt de cette église aussi, elle porte les traces de la fameuse explosion du Liberty Ship de 1947. Si vous rentrez un peu et que vous regardez le transept, vous verrez toute l'humidité, tout le salpêtre qui est encore resté depuis cette explosion du Liberty Ship dans le port, qui a détruit le Brest qui venait d'être reconstruit dans la cité et qui a abîmé toutes les maisons du quartier Saint-Martin qui était resté à peu près intact de la guerre. Je vous invite quand même à venir regarder ces traces
Bon, donc, si on se retourne comme ça, on voit bien donc le granit de la Béryldute pour faire toutes les pierres de taille importantes, les colonnettes en quercandite. Et vous voyez bien qu'entre les colonnettes et les socles en granit de la Béryldute, il y a une roche qui apparaît différente, qui est un petit peu jaune, et qui est donc ce granit fin à muscovite, qui provient vraisemblablement du Nord Finistère aussi, Plou d'Almézo ou Plou Arzel. Voilà. Alors, autrement, l'angle de la... Alors, l'idéal serait que cette balade se fasse à deux voies avec un architecte, en fait. Hein. Je ne suis pas architecte. Bon, mais bon, pour les dates, l'histoire, etc. Hein, bon. Donc là, on a, et je ne reviendrai pas dessus, mais on a typiquement, ben, vous connaissez tous ça évidemment, les façades classiques du Brest de cette époque-là, hein, avec le nombre de niveaux qui est toujours le même, tous les immeubles étaient bien calibrés, ce qui fait d'ailleurs l'originalité aussi, l'intérêt d'une ville. Et vous voyez les murs donc, qui sont... Comme j'ai dit tout à l'heure, en gneiss de Brest, ça ne se voit pas. Et les ouvertures qui sont ici, pour ces 4-5 bâtiments, classiquement en quercandite, cette pierre sombre qui se taille très bien. Et toutes les pierres sont taillées pareil, hein, c'est-à-dire c'est d'une homogénéité. Hein, bon, voilà. Hein. Alors cependant, si on se détourne un petit peu, vous voyez, vous allez reconnaître tout de suite que le petit bâtiment qui est là n'est pas de même facture. Et vous voyez très bien que les pierres de taille qui ont été utilisées pour les ouvertures, aussi en bandeau filant, là, comme on dit, sous les fenêtres, c'est évidemment là le granit de la Béryldute. Ça se reconnaît. Une fois qu'on l'a vu, ces cinq pierres de Brest, si vous voulez, une fois que vous les avez vues une fois, elles sont parfaitement reconnaissables. Hein. Et à tel point que, ça j'ai oublié de le dire à la balade précédente, ces pierres, comme d'autres pierres dans d'autres villes, contribuent complètement et puissamment à faire l'identité d'une ville. Une ville est granitique, elle sera d'un granit rouge ou d'un granit bleu, une ville est calcaire, une ville va être faite en grès, une ville va être faite avec des schistes un peu grossiers, autres, mais c'est parfaitement caractéristique et ça marque bien l'identité d'une ville. Donc, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience et dont il faut aussi, et à laquelle plutôt il faut être attentif dans la gestion des façades. Et donc le fait que je m'intéresse un peu à ça en ce moment dans une relation avec la commune, j'ai eu l'occasion d'attirer leur attention sur le renouveau là à Saint-Martin où on se met à peindre les façades, ce qui est très bien parce qu'elles vieillissent très vite avec l'humidité, les façades ici, il y a des salissures très rapidement, mais ce qui est moins sympa c'est de peindre les pierres. Alors tous les bandeaux de fenêtres peints en blanc ou peints en n'importe quoi en même temps que la façade, ça va pas trop quoi. Donc en plus c'est contraire au règlement de la ZPPAU, donc faut être attentif parce que c'est comme ça qu'on perd l'identité d'un quartier et d'une ville. Voilà, d'accord ? Alors, vous allez regarder autour des arbres, là, les petits pavés qui limitent la jardinière, là, où je ne sais pas comment on dit, là. Alors, vous allez voir, là, donc, la cinquième roche de Brest que j'ai évoquée tout à l'heure, le microgranite de l'île Longue, qui est aussi une roche parfaitement reconnaissable dès l'instant où on l'a bien regardé une fois. C'est une roche qui est très fine, avec une... Vous voyez, il y a une matrice grise, alors parfois un petit peu jaunâtre, une matrice grise dans laquelle il y a des taches blanches. Donc il y a des cristaux blancs, qui sont des cristaux de feldspath. C'est un micro-granite. Oui, on peut donner un petit coup de flotte dessus. Voilà, vous voyez, voilà. Hein ? Alors, le géologue sur le terrain fait ça aussi, mais il fait pipi, lui. Mais on ne peut pas, nous... on ne va pas gaspiller notre eau. On a besoin de l'eau pour... Bah. Donc, voilà, ça permet de faire ressortir la texture et puis les petits cristaux blancs. Donc, les petits cristaux blancs, ce sont évidemment des feldspaths. Et c'est un micro-granite, donc il a la même composition que le granite, du quartz, du feldspath et des micas. Il a beaucoup de quartz, et c'est une roche qui, donc, à la fois, bien qu'ayant beaucoup de quartz, se taillait très bien. Et elle se taillait pour faire des pavés. et on ne l'a pas utilisé dans la construction ou anecdotiquement dans la construction. Et cette roche avait une très grande réputation pour la qualité de ses pavés. J'ai dit ça tout à l'heure, non?
Oui,
j'ai dit,
oui.
D'accord. Okay. Bon, donc, je ne sais plus ce que j'ai dit. Voilà. Donc voilà, hein, et vous allez voir ça. Alors, on va le voir aussi dans le caniveau ici. Maintenant que vous l'avez vu, bah, vous allez le repérer partout. Alors, c'est pas là, mais un peu plus loin. On verra tout à l'heure. Vous verrez les bordures de trottoir aussi à Saint-Martin sont soit en granit de la Béridute, soit en quercentite. Hein. Voilà, là c'est de granit de la Béridute avec ces grands cristaux roses. Alors, comme c'est un peu, vous voyez ici, là, particulièrement caractéristique. Mais il peut y avoir des roches. Ça le granit est parfaitement frais. Hein, on dit frais, bon, c'est pas comme une mode de beurre, hein, voilà. il est frais parce qu'il n'a pas été altéré. Il est comme une cassure fraîche, la roche qui, comme elle apparaît à l'affleurement, en ayant été fraîchement mise à l'affleurement. Mais autrement, il peut devenir un petit peu plus ocre ou jaune, justement lorsque on est en partie plus superficielle de la carrière et lorsque le matériau est un petit peu altéré. Alors, qu'est-ce qui fait l'altération? Comment une roche s'altère? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une roche réagissait dans des conditions de formation de chaînes de montagne, à de la pression, à de la température, en métamorphose. Eh bien, vous imaginez qu'une roche, le granit par exemple, une roche magmatique, c'est du magma qui s'est fait en profondeur. Le magma est monté dans une chambre magmatique où il a refroidi, il s'est cristallisé. Donc, la roche a cristallisé et s'est formée dans des conditions d'environnement thermodynamique, pour dire un gros mot, hein, de température et de pression, qui ont présidé à sa composition minéralogique. D'accord ? Voilà. Eh bien, quand cette roche, qui était parfaitement à l'équilibre, peinarde, sous terre, là, dans la racine de la montagne, arrive à l'affleurement par le jeu de l'érosion, elle se trouve dans de nouvelles conditions environnementales. Et elle doit réagir aussi. Alors cette fois, ça n'est pas du métamorphisme, mais elle va réagir par un certain nombre de phénomènes qui sont notamment l'altération. Et l'altération, ben, c'est l'environnement, l'air, la pluie, l'agressivité de l'environnement qui va faire une attaque chimique des minéraux. Et le minéral qui est le plus sensible à cette attaque chimique, c'est le feldspath. Ce qui fait que ça aboutit de façon ultime dans une altération comme cela des granites à ce que le feldspath, très altéré, donne des gisements de kaolin. Pourquoi il y a du kaolin à Bérien ? Eh ben on est dans un massif de granit qui est le granit du Helwat et c'est le stade ultime, final, dans des conditions, je ne rentre pas trop dans les détails, particulières de cette altération qui va produire du kaolin. Le kaolin, c'est une argile. Issu de l'altération des feldspaths. D'accord ? Voilà. Et ça sert à faire la porcelaine, entre autres. Mais ça sert aussi à faire les lavabos. Hein.
Smecta.
Ouais. Bon, alors, on va traverser. Attention. Voilà. On va traverser. Donc, voilà des bordures de trottoir qui sont en granit, de superbe granit rose de la Béridute. Voilà ce bâtiment a été très bien restauré, hein, voilà, bel enduit, beau volet, tout nickel, et on n'a pas esquinté la quercentite, que l'on a même peut-être sablé un petit peu pour lui donner sa belle allure. Alors on reviendra sur la quercentite tout à l'heure, mais vous pouvez la regarder en passant, parce qu'on ne veut pas se mettre à 35 autour d'un caillou. Voilà, superbe quercentite. Toujours de la quercentite ici sur cet encadrement de portes et fenêtres. Ici, voilà, vous voyez tout de suite. Alors après, une fois que je vous aurai... Alors, je n'ai pas ma technique. Oh, le pauvre homme de la technique, là, je le plains quand même. Hein. Surtout qu'il l'a depuis 2 heures. Et non. Donc, une fois que vous aurez vu les cailloux, après, vous les reconnaîtrez partout. Hein. Bien sûr, on a du granit rose de la Béridute. Et vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, des faciès plus jaunâtres. Vous voyez, mais vous reconnaissez les grands feldspaths, hein, voilà. Et puis les petites enclaves que l'on trouve dedans, hein, voilà. Donc évidemment, quand on n'était pas forcément puriste, hein, si on pouvait tailler une belle pierre dans ce faciès un peu altéré, on la prenait quand même, hein, il n'y a pas de raison.
Voilà, là aussi. Alors, vous allez voir sur la bordure de trottoir ici, qui est en arrondi avec la rue Prudhon, on passe de la bordure de trottoir en granit de la Vérildute à la quercentite. Et cette quercentite-là, alors il y a des quercentites, hein, donc les carriers, eux, disent le quercenton d'une façon générale. Donc en géologie, toutes les noms de roches, c'est, enfin pas tous, mais les roches qui sont it, c'est ITE. Beaucoup de roches sont it, hein, ITE. Et donc il y a des quercentites. Et la quercentite, alors c'est évidemment du patrimoine géologique, mais aussi c'est du patrimoine historique, culturel, etc. Puisque c'est le seul nom de roche au monde, qui porte un nom venant d'un toponyme breton. Quercenton, c'est un hameau de l'opérette, hein, où la quercentite a été définie. Voilà. Le premier gars qui a vu ce caillou-là, il a dit il n'a pas la même gueule que les autres. Il l'a regardé et il l'a dit, c'est la quercentite. Voilà. Mais alors, après, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait des quercentites. Il y a trois ou quatre types de quercentites. Il y a la quercentite claire de l'hôpital Canfrout, qui est la dernière à avoir été exploitée dans les carrières Sancaire. Il y a la vraie quercentite qui a été définie au XIXe siècle et qui est la quercentite sombre de Quercenton ou de Kerzaflor, la grande carrière de Kerzaflor sur l'opérette. Toutes ces carrières sont maintenant plus tellement accessibles. Et puis il y a une autre quercentite qui est sur vers le château de Rosmorduc, dans la presqu'île, là aussi, qui est une quercentite très sombre et avec un grain très très fin. Voilà, et alors donc c'est très intéressant de connaître. Alors il n'y a plus de quercentite exploitée, mais c'est très intéressant aussi de connaître ces roches et de faire le lien entre la géologie locale et l'architecture, la sculpture, les bâtiments, parce que quand on restaure du bâti, eh bien, il faut savoir d'où ça vient. On ne va pas aller prendre une roche à peine d'âge, alors que, en fait, la tête du saint, elle venait de la commune d'à côté. Et donc, quand on a restauré la cathédrale de Quimper, cela a permis de réexploiter des ardoises des Monts d'Arrée pour la toiture, pour faire de la vraie restauration historique, et pour restaurer les statuaires qui étaient en quercentite. Le sculpteur a cherché à avoir de la quercentite et de la même quercentite sombre. Et bien, il a fait appel à... Là, je n'ai pas évoqué le nom de Louis Choris, mais mon collègue Louis Choris, que certains connaissent peut-être ici, est celui qui fait son miel de toutes ces histoires-là depuis une bonne vingtaine d'années et qui est tout à fait le spécialiste. Je suis qu'un ersatz, moi, là-dessus. Et donc, il a contacté Louis Choris, qui l'a emmené, qui lui a fait patrouiller le terrain du canton de Daoulas pour lui faire trouver de la quercentite, des blocs encore, que l'on trouve à proximité des carrières. Et quand il s'agit de trouver un petit morceau pour restaurer une statue, il y a toujours de quoi. Ouais. Alors voilà, cette quercentite-là, c'est la quercentite claire de l'hôpital Canfrout, qui se reconnaît très bien au fait qu'elle a souvent, et vous allez le voir de façon très nette ici, en enclave, je dirais plutôt en inclusion, si vous voulez, en enclave, c'est un peu pareil, vous voyez, des morceaux comme ça, plus ou moins effilochés, plus ou moins massifs, de quartz. Vous reconnaissez du quartz, là, bien, bien blanc, bien clair, là, voilà. Hein? Ce qui est une particularité. C'est une roche très bizarre, ça. Hein? Ça fait partie d'une roche, d'un groupe de roches bizarres dont on trouve des équivalents un peu ici ou là avec d'autres noms et pour lesquels on a des interrogations sur l'origine. C'est une roche magmatique, hein, mais qui a certainement, si elle est dans son ascension, hein, le magma qui se fait en profondeur et puis qui monte, dans son ascension, a sans doute assimilé beaucoup de matériaux de la croûte, ce qui lui a donné une composition particulière. Voilà, alors, je disais tout à l'heure que ça serait bien de coupler ces animations avec un architecte, parce qu'il y a là un bâtiment dans Brest qui est complètement délaissé et qui est magnifique, qui est un monument, hein, c'est un immeuble qui a une dimension monumentale, et qui, pour mon thème là d'aujourd'hui, est particulièrement remarquable, puisque il est en quercentite. Hein. Derrière le ciment d'enduit, c'est probablement, c'est même très certainement du gneiss de Brest, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais regardez la quantité de pierres de taille en quercentite qu'il y a.
La carte sentie telle qu'on la voit, mais de façon plus importante, autour des fenêtres des autres maisons qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi en bandeaux filants, en grands éléments au niveau 1, en pierre, alors on va voir sur la tranche tout à l'heure, en pierre de taille énorme, vous voyez, simplement éclatée au burin. Donc c'est un bâtiment assez remarquable. Bon, pour lequel je pense que ça va être des appartements prochainement, c'est d'après ce que j'ai lu. Hein, voilà. Et alors, contrairement, il y a un petit journal là qui sort gratuit là, avec de la pub, là, comment ça s'appelle là ?
Oui, Côté Brest.
Côté Brest, sans doute. Bon, alors, un des derniers numéros que j'ai piqué, je ne sais pas trop où, il y a quelques semaines, dit qu'évidemment, il est en granit, ce n'est pas du granit. Mais comme le journaliste qui a écrit, il n'a pas mis de « e » à granit, donc je ne peux pas complètement le gronder, puisque vous voyez que la texture est grenue, donc une roche qui est grenue, pour quelqu'un qui n'y connaît pas bien, on peut dire granit sans « e », mais sans « e ». Voilà. Mais ce n'est pas un granit. Et ce n'est même pas de la famille du granit, en plus. Voilà. Donc l'immeuble de Proudhon, en quercentite. Et alors, vous allez voir... Alors, la bordure de trottoir est évidemment en quercentite ici, que vous allez bien reconnaître maintenant. Alors, dans la balade précédente, je disais que aussi au cours du temps, les matériaux, et alors on cherchait les matériaux dont on avait besoin pour certains usages et en fonction aussi de la possibilité que le matériau donnait pour une taille ou pas une taille, hein, selon la taille. Et vous voyez, et donc tout ça a été fait évidemment à l'époque à la main. Hein, donc ça, ce qui n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Et vous voyez ici les morceaux qui étaient extraits de la carrière. Hein. C'est pas de la bricole. Hein. Hein, voilà, donc c'est évidemment plus comme cela que l'on fait aujourd'hui. Quand on a de la pierre naturelle en façade, vous verrez dans le Brest moderne, c'est du plaquage, c'est du parement. Ah oui. Derrière le mur, il est en béton, et dessus, on met un plaquage, une plaque simplement qui a été sciée, éventuellement un petit peu bouchardée dessus, mais que l'on met en façade. On n'a jamais des trucs comme ça.
Hein. Et qui m'est tombé au ras du corps d'un coup.
Ça peut aussi arriver. Et ben voilà. Ouais. Voilà, alors toujours les immeubles, là, donc maintenant très caractéristiques, vous avez compris. Et là, donc, on va passer dans les derrières. Et dans les derrières, on va pouvoir voir ce qui n'est pas enduit, et donc le gneiss de Brest. Bon, ben voilà. Donc, évidemment, le derrière de l'immeuble est peut-être un peu moins beau que le devant, hein, avec la petite céramique en haut, 1912. Et donc, voilà les murs. Du Brest 19e siècle, début 20e, en gneiss de Brest. Et là, ce gneiss, vous voyez, qui ne permet que de mauvais moellons, très difficiles à tailler. Alors parfois, on arrive à en faire un qui est un peu parallélépipédique, mais très souvent, on monte, on cale les pierres, et normalement, on le voit par endroits, c'est une terre argileuse qui vient faire le lien entre les pierres pour élever les murs. Hein. Là, évidemment, on a rajouté du ciment par-dessus. Bon, voilà. Donc, si vous vous baladez dans Saint-Martin, tous les murs des cours ou des petites vénelles ou des petits passages qu'il peut y avoir seront comme ça, hein, gneiss de Brest. Voilà. Donc, vous voyez très bien d'ici que la roche est orientée. Hein. On voit très bien que les minéraux sont disposés de façon privilégiée dans un sens, hein. Ce qui n'est pas le cas quand vous regardez le granit de la Vérilute ou la quercentite, qui sont des roches magmatiques, donc qui n'ont pas forcément de direction privilégiée. Voilà, ça va ? Alors on va longer le gneiss de Brest pour rejoindre la médiathèque de la place Guérin. Vous avez toujours ces murs là. Bon, ça, c'est des murs tout à fait d'origine, hein, voilà, en gneiss de Brest, où on cale avec toute taille, tout calibre. Vous voyez, je vous ai dit que c'était des pierres, c'est une roche une formation qui ne se prête pas à la taille. Alors cela dit, on peut essayer évidemment, hein, avec plus ou moins de succès. De toute façon, on utilisera tout, y compris des petits morceaux comme ça, vous voyez, en cale, et puis bon, ça monte, et puis après c'est le savoir-faire. Alors vous voyez très bien sur là, on a taillé et on a réussi à faire ce qui au début était une cassure fraîche, mais qui maintenant a pris un peu de mousse et de lichen, mais on voit bien, si vous voulez, où on voit l'orientation préférentielle de la roche, et où si on met le nez dessus, on verra les différents cristaux, hein, quartz, feldspath, mica, c'est toujours pareil. Et puis, on a des surfaces comme ça. Vous voyez que cette surface-là, elle est plane. Hein. On pourrait dire, bah, tiens, aujourd'hui, c'est un truc qui a été un trait de scie. Non, bah, ce n'est pas un trait de scie du tout, c'est une cassure, hein, mais c'est une cassure naturelle dans la formation. Alors, une fracture, on dirait, hein, bon, il y a des mots plus ou moins compliqués. Quand c'est des grandes fractures à l'échelle de toute une formation et d'une région, on parle de faille, enfin, si vous connaissez le mot. Hein, quand c'est à une échelle plus petite, on parle de diaclase. Hein. Bon, c'est aussi, quand vous regardez, vous êtes tous allés dans une carrière exploitée, quand vous regardez le front de taille d'une carrière, vous voyez en gros que même si la roche est massive, vous avez des cassures dans le front de taille qui sont verticales ou horizontales. Et dans une roche très massive, ça va isoler des blocs en fait dans la paroi de la carrière. Et ben c'est ça, c'est des diaclases. Il y en a à différents niveaux. Et dans ces roches-là, et ben il y en a plutôt pas mal par rapport à un massif granitique. Et donc si vous regardez l'affleurement naturel de gneiss de Brest sous les remparts vers le monument américain, vous verrez précisément bien à l'affleurement ces cassures qui apparaissent comme des grands ponts comme ça, et qui sont généralement bruns, ocre brun, marron, qui ont un aspect rouillé. Et ben, c'est tout simplement de la rouille. C'est parce que la roche est riche en mica. Le mica, c'est un minéral riche en fer et en magnésium, et ça s'oxyde. Je vous disais tout à l'heure, quand la formation arrive à l'affleurement, elle a un environnement nouveau auquel elle doit s'habituer. Il y a l'altération qui se fait et qui est cette forme d'adaptation. Eh bien, la rouille.
La carène est vraiment bien adaptée.
Exactement, voilà.
Quand il y a du soleil.
Et bien voilà,
ça a la même couleur.
Le béton rose est en homochromie avec les faces de diaclase. Voilà. Hein. Et donc, on a là des surfaces, vous voyez, de diaclase qui sont rouillées comme ça, voilà. Alors que là, c'est une cassure qui montre bien la texture et la composition minéralogique. Voilà, d'accord. Et là, on voit bien là, c'est tout à fait ancien. On voit bien le lien. Est une terre argileuse.
Hein. Celle-là, le gros bloc.
Là, ben c'est aussi une diaclase. Ça n'est pas lié au ciseau ou au marteau. Hein. Voilà, donc Brest, c'est ça, le gneiss de Brest. Hein. Voilà, c'est pas terrible.
Mais on ne voit pas toujours le.
Plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Voilà, hein, plus ou moins. Voilà, alors on va continuer là sur. Ben oui, je disais, je vais aller plus vite pour celui-là, il est déjà 6 heures. Bon, en fait, je suis trop bavard. Alors, on va... Bon. Donc, les bordures tortoires, ben, en quartzantite, vous les reconnaissez avec les quartz. Donc, quand vous voyez des quartz comme ça, hein, et que vous voyez aussi, vous voyez, elle est quand même assez blanche, là. Il y a plein de petits trucs blancs dedans, hein. Tout ce qui est blanc, là, que l'on voit, ce sont des cristaux, c'est le feldspath. Et le reste, ce qui fait la teinte sombre, ben c'est les micas. Et puis d'autres minéraux, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais qui sont évidemment sombres. Et voilà, donc ça, c'est complètement, avec ces grands quartz comme ça, c'est complètement caractéristique de l'hôpital Canfrout. Alors, là, ce qui est bien sur cette maison-là, c'est donc la pierre du rose. Voilà la pierre du rose, ou la pierre de Logona, ou encore microdurite quartzique, c'est-à-dire une roche de la famille du granit. Mais bon, qui a une composition un petit peu différente, on ne va pas rentrer dans les détails. Et cette roche a. Ah, attention, attention à la voiture.
Attention
à la voiture, s'il vous plaît. Et donc, cette roche, donc une fois qu'on l'a vue, on ne peut pas ne pas la reconnaître. Elle est parfaitement caractéristique par sa couleur ocre, qui donne une note quand même tout à fait originale dans l'ambiance colorée de Brest, quand même, ça, très particulier. par le fait que l'on a des cernes comme ça. Hein, vous voyez, des cernes, des cercles concentriques plus marrons, sombres, hein, qui font quand même l'originalité de cette roche et qui correspondent à une... comme je vous ai dit tout à l'heure, quand les roches étaient altérées, elles devenaient un peu ocre. Donc cette roche qui est ocre, elle est évidemment altérée. Hein. Donc c'est une roche de la famille du granit qui a subi une altération. Et ces cernes-là correspondent à une migration du fer dans la roche, un peu comme ceux qui ont fait des TP de chimie, là, autrefois, quand ils étaient à l'école, là, vous savez, on met un buvard dans certaines solutions, puis on a la chromatographie, là, les éléments montent dans le buvard et ça fait des cernes, vous voyez, comme ça. Ben, c'est un peu le même principe, en un peu plus compliqué, c'est ça. Bon, voilà, donc c'est dans les processus d'altération, il y a cette diffusion et cette migration du fer dans la roche qui est responsable de ces cernes, qui contribuent complètement à l'originalité de cette roche. Et puis, un deuxième élément... qui montre bien que c'est une roche altérée, quand vous la regarderez de près, vous verrez qu'elle a un aspect, excusez-moi du mot, vérolé en surface. Vous avez comme une peau de, qu'on voit sur les tableaux ou les photos, là, des peaux vérolées. Ben voilà, c'est plein de petits trous. Là, voilà. Et en fait, ces petits trous, eh bien, ce sont des minéraux altérés qui sont partis. Et les minéraux, puisque c'est un minéral, c'est une roche de la famille des granites, le minéral altéré, c'est le feldspath, et à niveau d'altération, eh ben, il s'en va, il reste le trou. Voilà, d'accord ? Voilà, donc la pierre du rose, ou pierre de Logona, famille du granit, microdiorite quartzique, et qui a été utilisée, vous voyez, et mise en œuvre, exactement comme la quercentite, hein, en pierre taillée, et en pierre, comme ça, de façon très parallélépipédique, en entourage de portes et de fenêtres. Et derrière le mur, c'est du gneiss de Bresse. Et ça ne devrait pas être peint. Voilà. D'accord ? Voilà, n'a pas non plus. Voilà. Alors, je ne suis pas mécontent parce que la ville a fait mettre un PV à quelqu'un. Alors, si ça peut faire à un syndic qui a peint un immeuble. Comme de toute façon, pour repeindre la façade de sa maison, il faut demander une autorisation de travaux, ce que les gens ne savent pas. Il ne l'a pas demandé, et bon, c'est normal, c'est bien fait. Allez hop. Bon, donc on va traverser, mais on va passer devant l'ancienne école Guérin, qui a été complètement relookée par Michel Quéré, l'architecte de Brestois de talent. Bon, alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas une quercentite, mais des quercentites. Hein, les vraies et les fausses ou les voilà. Et donc vous voyez sur cet entourage de baies ici, vous voyez bien la diversité qu'il peut y avoir dans cette roche. Tout ça, tout l'entourage de la baie, y compris l'assise ici, est en quercentite, mais avec des grains et des teintes différentes. Vous voyez, là vous avez la quercentite claire, celle-là, vous voyez bien qu'elle a à peu près la même allure, mais elle est un petit peu plus sombre. Hein, donc la composition, pas exactement la même. Hein, bon, voilà, c'est tout. Celle-là est beaucoup plus fine et beaucoup plus sombre. Celle-là est un peu grossière, mais sombre aussi. Voilà, la diversité des quercentites selon les carrières très nombreuses qu'il y avait dans la région de Pays de Daoulas, région de Logona. Et c'est une roche, donc j'ai dit tout à l'heure qu'elle était très, très spéciale. Hein, et on ne la trouve que là. En Bretagne, elle est nulle part ailleurs. Donc voilà, ça fait partie des originalités. Et c'est une roche qui a eu évidemment une réputation incroyable, puisqu'il y a eu un usage très, très lointain, hein, pour toute la statuaire, de tous les enclos, toute la Renaissance bretonne. C'est tous les. Voilà. Hein. Et alors, je vais en profiter pour. S'il y a des gens de Logona là, ou du canton, ou qui savent. Il y a une rumeur, pour ne pas dire une légende, et j'ai encore été confronté à ça il n'y a pas très longtemps sur la commune de Perrette, où on m'avait demandé de venir parler de la quercentite et où quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose de la quercentite parlait dans le micro de la télé locale. Il y a une croyance qui dit que le socle de la statue de la liberté Hein, vous avez entendu parler de ça? Eh bien voilà, donc j'étais sûr qu'il y en aurait au moins un. Voilà, donc on dit que le socle de la Statue de la Liberté à New York, vous avez entendu ça aussi? Voilà. Eh bien voilà, bon. Bon. Donc, voilà, donc il est dit que le socle de la Statue de la Liberté à New York serait en quercentite. Alors j'ai entendu ça X fois. Et donc je l'ai encore entendu récemment, où ça m'a vraiment gonflé, parce que la probabilité, elle est quand même pas énorme, quoi, hein, surtout à cette époque-là, si vous voulez. Hein, bon. Et d'où l'intérêt d'Internet et de la rapidité de la communication aujourd'hui, dans la foulée de la rencontre que je disais tout à l'heure. Je tapote sur Internet. J'avais vaguement entendu parler qu'il y avait eu un anniversaire de Bartholdi, là, avec une manifestation et autres. Donc je tape là, Bartholdi, et je tombe sur le fait qu'il y avait un musée Bartholdi à Colmar. Voilà, ce que je ne savais pas. Voilà. Parce que le gars en question, il était de Colmar. Voilà, bon, c'est normal. Hein. Et donc je tapote musée Bartholdi, et je tombe sur un musée municipal. Bon, paf, et j'envoie un mail de suite, comme ça, à 11h du soir, je vois quand, à l'adresse du conservateur du musée Bartholdi. Et je lui dis, voilà, je me présente, je suis géologue à Brest, on dit que, j'ai du mal à le croire, dites-moi où est-ce que je pourrais, il y a des amis de Bartholdi, faites-moi rencontrer un, que je sache. Et il me répond le lendemain, à 11h du matin, c'est incroyable, il dit, cher monsieur, pas de problème, c'est pas vrai du tout. Et je vous en, donnez-moi votre adresse, je vous envoie par la poste toutes les preuves du contraire. Donc, je suis content d'avoir quelques croyants ici que je vais, convertir ou que je vais... Hein, voilà. Mais vous savez, alors je vais l'écrire à tous les maires des communes concernées, mais je suis persuadé que la rumeur restera, on ne démolit pas les maires. Et donc, j'ai eu tous les documents. Donc, vous savez que cette statue a été fait l'objet d'une souscription en France, on l'a offerte aux Américains. Mais d'abord, les Américains, ils n'avaient rien demandé. Et ensuite, quand ils ont reçu la statue, qui est quand même c'est un cadeau imposant, hein, quand même, hein, pour savoir où est-ce qu'on la met, machin, etc. Si on vous amène ça dans le jardin, bon. Et eux, là-bas, ils n'avaient rien prévu, ils n'avaient rien demandé. Donc il a fallu que, de leur côté, ils se débrouillent pour la mettre quelque part. Et donc, de leur côté, ils ont fait toute une aventure pour réunir de l'argent pour faire le socle. Et ça a été très difficile. Et le socle, ben donc j'ai tous les documents. Le socle est fait en granit de l'île, je n'ai pas retenu le nom, là, de je ne sais pas trop quoi, dans le Connecticut, et qui est un granit qui granito-gneiss, donc c'est un granit un peu orienté, et qui d'ailleurs est rose. Et alors je vous invite à aller sur Internet, où vous allez sur... Internet, je ne sais pas, enfin sur des sites où vous mettrez Statue de la Liberté, où vous allez tomber sur certains qui vont vous dire que c'est la quercentite, évidemment, ce qui veut dire que ce qu'on trouve sur Internet, ce n'est pas forcément vrai, d'abord. Et ensuite, si vous regardez la photo qui va avec ce que le gars a marqué que c'est la quercentite, vous verrez que le socle est rose, ce qui est quand même relativement difficile, à moins de le peindre. Hein? Donc, si vous pouvez le dire autour de vous, voilà. Alors, cela dit, Choris étant une sommité, un puits de science et de connaissances, me dit, attention, parce qu'il y a peut-être dans le socle un morceau de quercentite. Ah. Pourquoi? Parce que à l'exposition de Paris, où c'était quand même le grand moment où on valorisait plein de choses au plan technique, les ingénieurs, tout ça, etc. Et donc, au pavillon de la Bretagne, il y avait deux blocs de roches très importants qui étaient posés là pour montrer justement les capacités des roches de la géologie bretonne à contribuer à l'aménagement du territoire, à tout ce qu'on pouvait faire avec des cailloux. L'une était un bloc de la béryldite et l'autre était un bloc de quercentite. Et ces deux blocs, il a fallu les emmener là-bas, donc une fois là-bas, ils ne les ont pas ramenés. Ils les ont mis, on peut toujours les voir à Paris, dans la cour de l'école des mines à Paris. Normal qu'ils aillent là. Voilà. Et donc, il me dit, bah, peut-être comme à l'époque, c'était, il y avait cette... c'est de la pub, en fait, quoi, hein, pour Zérol. Peut-être qu'à ce moment-là, on a peut-être donné un gros bloc de roche. Donc, à suivre, il faut aller faire le tour du socle. Donc, je vais demander une subvention à la ville de l'hôpital Canfrout ou Logona pour aller vérifier sur place, pour savoir si on peut détruire définitivement cette rumeur ou pas. Voilà, donc l'entourage des fenêtres, donc quercentite, là, les diverses quercentites. Bon, donc, nous avons bien vu, vous avez bien vu de façon très caractéristique et reconnaissable les cinq roches que l'on peut trouver dans le Brest historique. Je vous ai dit qu'une de ces roches avait été reprise, je pense, volontairement ou un clin d'œil, par un architecte de la reconstruction pour l'église Saint-Louis. Hein, je pense que c'est pas fait, c'est pas fortuit. La quercentite aujourd'hui n'est plus utilisée, sauf ponctuellement pour un symposium de la pierre à l'hôpital Canfrout de temps en temps, où Dany Sanquer sort quelques blocs avec des sculpteurs qui font deux, trois trucs. Le granit de la Berildut n'a pas été recherché comme matériau pour la reconstruction. Peut-être que Maton n'aimait pas le rose. Possible. Il aimait peut-être que le gris. Hein. Sauf dans le soubassement de la trésorerie générale et dans le soubassement des petites maisons qui sont des petites villas qui sont de chaque côté du square Lherminier. Vous le reconnaîtrez sans difficulté. Hein, maintenant que vous l'avez bien vu. Donc, peu utilisé. Hein, alors que c'est un matériau, vous avez vu dans l'église la possibilité qu'il offre. Le socle, un seul monolithe pour le socle de Louxor, 106 tonnes, incroyable. Bon, voilà. La pierre de Logona, la pierre de Logona n'est pas utilisée sauf pour faire des cheminées ou des trucs comme ça, bon, voilà. Mais elle n'a pas dit son dernier mot, je vais vous montrer quelque chose tout à l'heure. Ou elle a encore dit un dernier mot peut-être, et je vais vous le montrer tout à l'heure. Et puis, la pierre de microgranit de l'île Longue, ben maintenant, il n'est plus tellement accessible et le site a d'autres vocations. Voilà, voilà. Et alors, pour finir, contrairement, alors on n'a pas d'étrangers, là, on est entre Finistériens et Brestois. Donc, pour les gens qui n'aiment pas bien Brest ou qui trouvent que Brest est moche, etc., c'est qu'on ne regarde peut-être pas suffisamment attentivement Brest, mais vous voyez qu'au fur et à mesure des restaurations ou du fait que l'on parle de ceci ou de cela, on peut lever les yeux, comme dans toutes les villes d'ailleurs, où le premier étage, qui est l'étage commerçant, est souvent complètement saccagé par le fait qu'on met des devants, comme dit mon collègue, des devantrines qui n'ont aucun lien avec l'organisation, avec l'architecture de la façade. On déborde complètement, on ne respecte pas l'architecture, on ne respecte pas les modénatures qu'il peut y avoir en façade, et on fait une espèce de tartine là qui s'impose et qui fait que quand on marche sur un trottoir, on ne voit que des crottes là qui sont les unes à côté des autres, et si on relève pas la tête, on ne voit pas ce qui est la qualité architecturale du bâtiment, ce qui est complètement désastreux. Hein, voilà. Alors que si on faisait une devantrine de magasin qui s'inscrit dans la logique de la façade, à la fois en couleur, en matériaux et en forme, en ouverture, ça serait quand même plus sympathique. Alors vous avez une façade ici, avec jusqu'en haut du premier étage, qui est entièrement en pierre de taille, évidemment du granit de la Berildut. Donc vous imaginez les façades dans le quartier Siam, avant les bombardements, il devait y avoir des petites choses qui ne devaient pas être mal, hein. Ensuite, vous avez les trois étages suivants, où vous avez, après un bandeau filant, vous avez les trois étages suivants qui sont aussi avec des entourages de fenêtres, et également les pierres qui font le balcon de l'attique en haut, qui sont en granit de la Berildut. Hein. Et à côté, ben, vous avez la façade classique du Brest de cette époque, avec les pierres de quercentite, et avec évidemment l'attique au dernier étage, hein, qui est une forme architecturale classique à Brest, mais qu'on ne voit pas parce qu'on ne relève pas la tête. Il y en a, mais bon, hein, voilà. Hein. Et bon. Ah oui, puis là, moi, j'aimerais bien avoir un petit appart, quitte à habiter Brest, avoir un petit appart là-haut, ça doit être les plus sympas. Et vous voyez, dans les deux maisons qui sont à côté, eh ben, ces petits salopards, ils ont peint la quercentite, ce qui est quand même pas très sympathique. Mais c'est peut-être un ancien, je ne sais pas. Puis on retrouve après, à l'angle là-bas, un bâtiment qui a été restauré ou c'est conservé. Et puis vous avez, en tournant là, vous avez un bâtiment qui a été condamné, qui court ruine là, mais j'espère qu'il sera relevé, où on a à suivre deux bâtiments dont les ouvertures sont en pierre du rose, avec un là qui vient d'être... Heureusement d'ailleurs, c'était des mauvais parpaings qu'il y avait là, qui bouchaient l'entrée. Maintenant, il y a bière, c'est plus sympa. Hein. Ça invite à aller au Triskel d'un côté, au café de la plage de l'autre, pourquoi pas. Hein. Voilà, bon, voilà. Donc vous connaissez maintenant bien ces pierres. Ben, quand vous baladerez dans Saint-Martin, vous les retrouverez. Et vous verrez que... Alors là, on a vu, on ne l'a pas ici, mais bon, on va s'arrêter. Vous verrez que parfois, sur certains bâtiments, on a associé la pierre du rose et la quercentite dans une polychromie qui est recherchée, où on fait alterner dans l'entourage des ouvertures un coup la quercentite, un coup le logonat, un coup quercentite, un logonat, ce qui fait un effet décoratif qui est pas mal. Hein, voilà. Alors vous verrez aussi les Halles Saint-Martin, c'est évidemment du granit de la Béryldute. Vous verrez l'angle du Campanella qui est assez sympa. Hein, vous allez retrouver le granit de la Béryldute, vous allez retrouver de la quercentite sur les colonnettes, et puis le petit granit plus jaune pour faire les chapiteaux des colonnettes et la base, parce que c'est sculpté, hein, c'est assez sympa. Voilà, il y a plein de bâtiments comme ça. Et si vous voulez voir, j'ai parlé de restauration, donc en restauration, on ne peint pas la pierre de taille, nous sommes bien tous d'accord. Et en restauration aussi, on n'enlève pas l'enduit pour faire apparaître le gneiss de Brest qui n'a jamais été destiné par le matériau, n'est pas destiné à être apparent. Mais aujourd'hui, la mode, c'est les pierres apparentes. Donc, si vous allez boire un coup au Jabadéo, en face, bon, je vois une habituée, en face des Halles Saint-Martin, vous verrez qu'eux, ben, ils ont fait la mode. Hein. On pique le mur et on fait ressortir. Alors, évidemment, aujourd'hui, on peut projeter plein de trucs, des résines, des machins en façade qui empêchent l'humidité et l'eau de passer, mais ça n'a jamais été fait pour ça. Mais un petit truc comme ça permet de voir, justement, de belle façon, le gneiss de Brest, parce qu'il a été gratté, il a été piqué, et là, il est assez frais. Donc, si vous voulez voir un mur en gneiss de Brest relativement frais, vous allez au Jabadéo.
C'est où le Jabadéo?
Vous demanderez à mademoiselle. C'est celle qui est dans le prolongement de celle-là. Là. C'est Massillon, ça, non? C'est Massillon, ça? C'est Massillon, c'est celle qui est Massillon. L'autre côté derrière. Voilà. Voilà, et bien ici, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de... Voilà. Alors, ceux qui veulent continuer leur course dans Saint-Martin, ben, vous allez. Ceux qui veulent aller boire un coup au Jabadéo, vont au Jabadéo. Je vais dire ce que je vais dire, mais éventuellement, moi, je vais rejoindre le point de départ, on fait une boucle. Dans la logique des animations d'aujourd'hui, j'aurais dû faire une balade le long du tramway. Voilà, hein, et avec les matériaux du tramway. Donc ici, on a vu les matériaux historiques. Donc normalement, il y a deux balades, mais l'autre a été faite avant, où c'était Place de la Liberté, où j'ai expliqué les matériaux du Brest de la reconstruction. Si vous mettez au milieu de la Place de la Liberté, qui est le Brest monumental de Mâton, c'est une ville granitique, ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est tout autre chose. Hein. Bon, voilà. Et après, si vous regardez la Place de la Liberté, version Bernard Huet, décaissée avec les fontaines, le passage sous Clémenceau, c'est une troisième opération sur Brest, où là, on n'a plus des grosses pierres de taille ancienne, mais on n'a plus que du dallage ou du plaquage, c'est fait à la machine. Hein, voilà. Et on a, alors, pour le granit de la reconstruction, eh ben, à Brest, il n'y a pas de granit. Je vous ai dit que l'on a boudé la Béryldute. Donc, on a été chercher du granit là où il y en avait. Non, le Brest de la reconstruction. On a été chercher du granit au Huelgoat. Vous le reconnaîtrez avec les cristaux de cordierite bien visibles. À Dinan, hein, entre Rennes et Saint-Malo, où il y avait des carrières importantes et très opérationnelles, capables de fournir, et aussi à Plaintel, qui est le granit de le massif de Quintin, au sud de Saint-Brieuc, et qui ont servi à faire tous les bâtiments en granit autour de la place, la Poste, la Banque de France, le Tribunal, la Caisse d'Épargne, tous les bâtiments monumentaux là, du Brest. Granit de Plaintel, massif de Quintin, qui se reconnaît avec des tout petits feldspats un petit peu rosés, pas des grands comme la Berlite, voilà. Et puis, donc, on sort de la proximité que j'ai indiquée là pour aller à un autre rayon. On va chercher les pierres ailleurs. Ensuite, pour le dallage des fontaines et le passage Souge Clémenceau à l'arrière du monument aux morts, le monument aux morts est en granit de Dinan, on a là une alternance, il y a des bandes sombres et des bandes claires. Les bandes sombres, c'est le granit de Lan-Hélin, qui est ce granit-là, qui est au sud de Dol de Bretagne, entre Dol de Bretagne et Rennes, qui est un granit non plus comme ces granits-là de l'orogenèse hercynienne, mais qui est un granit de l'orogenèse précédente, qui a 540 millions d'années, cadomien. Et puis, sur cette place aussi, vous avez vu peut-être ou pas qu'il y a des endroits qui sont pavés roses. Ce pavé rose vient d'Espagne. Granit d'Espagne à la frontière du Portugal. Et dans les grandes bandes, alternativement sombre et clair, le sombre, c'est le granit de Lan-Hélin, je viens de le dire. Le clair, c'est le granit du Tarn, du Cidobre, dans le Haut-Languedoc. Et vous verrez bien, si vous voulez... Alors, qu'est-ce qui différencie un granit qui est gris d'un autre granit qui est gris? Ben ouais, c'est pas facile, quoi. Hein. Donc ça va être la couleur des feldspats. Il va être plus ou moins gris, plus ou moins blanc, un petit peu rose ou très rose, ou rouge, ou vert, ou bleu, etc. Voilà. Hein, la taille, ils sont grands. Le grain, il est à gros grain, à petit grain, avec des grands feldspats ou pas de grands feldspats. Bon, c'est plein de subtilités. Ou bien un minéral en plus de ce que je vous ai dit, la quartz feldspath mica, qui vient et qui se voit de façon significative. C'est le cas du Helgoat, qui a des cordierites, qui se voit très bien. Ça donne des sections rectangulaires ou carrées, qui miroitent un peu au soleil, qui mordorées, qui sont un peu vertes. Et quand on voit les sections, c'est plein de c'est haché, comme si on avait fait quand on hache des oignons, comme ça, sur une planche. Voilà. Et voilà. Et donc, ensuite... Bon, je passe sur le quartz, parce que sinon je vais être encore là à 8 heures. Hein. Ensuite, eh bien, pour le tram, alors pourquoi je n'ai pas fait le tram? Eh bien, parce que en fait, j'avais préparé tout ça et j'avais travaillé dans le cadre d'un petit livre qui vient de sortir, que je vous recommande fortement, que vous trouverez chez Dialogue, qui s'appelle Promenade géologique à Brest, et qui propose 3 itinéraires géologiques, enfin plein de choses, etc. Et du coup, comme ce truc vient de sortir tout juste là, on a demandé un soutien à la mairie pour l'éditer, ce qui est normal. Du coup, la mairie a sauté là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Et ils m'ont dit, attendez, vous allez nous faire quelque chose pour le tram. Je pouvais pas dire non. Hein, bon, voilà. Mais donc, j'avais fait ça, mais j'avais pas travaillé sur le tram. Et donc, du coup, je vais travailler sur le tram pour l'hiver prochain et pour ajouter un complément et pour faire une balade géologique de Gouesnou à Plouzané, un truc comme ça, le long du tram, parce que, donc, dernier événement brestois, c'est ça. C'est le tram où on a des matériaux aussi et où on a du granit. Et donc, mais dans toute cette histoire, si vous voulez, matériaux locaux, matériaux pas locaux, il y a aussi les techniques d'exploitation, les besoins du commanditaire et les techniques pour la mise en œuvre. Aujourd'hui, on ne fait plus des blocs comme on a vu dans le mur de Proudhon. Hein, on fait du plaquage. Hein, voilà. Et donc, voilà. Et aujourd'hui aussi, on ne regarde pas les pages jaunes, il n'y avait pas de pages jaunes à l'époque, mais pour regarder qu'est-ce qu'il y a comme carrière, et puis d'appeler les carrières, tu ne peux pas m'envoyer trois charrettes de machin, on n'a pas le droit. Hein, parce qu'on fait un cahier des charges, et puis il y a des marchés, on passe des marchés, et il y a des entreprises qui répondent aux marchés. C'est comme ça, et on ne peut pas faire autrement. François Cuyan dirait « je veux du granit de Helgoat », ça serait illégal. Donc le marché du tramway a été, il y a une entreprise qui a, ou plutôt un pool d'entreprises qui a été retenu, et ils ont proposé des prix, sont rentrés dans les budgets, etc. Et, sauf que leur granit, il était prévu pour être chinois.
Oui,
Il faut être chinois. Voilà. Alors, il y a eu du lobby, il y a eu du Reuse, vous avez vu ça dans le journal. À un moment, il y en a qui ont râlé, évidemment. Hein, bon, voilà. Mais, et du coup, donc, il y a eu des négociations, évidemment. Et donc, ils ont obtenu que 20% du chantier soit en granit breton. Mais ce n'est pas légal. À mon avis, ce n'est pas légal.
Et il y aura bientôt le télésphérique.
Ouais. On va s'en occuper. Et donc, ils n'ont pas réparti, à ma connaissance, parce que je viens de découvrir ça, parce que je n'y ai pas travaillé encore. Hein. Ils n'ont pas réparti ce granit breton sur tout le trajet, parce que c'était trop compliqué par rapport à toute la préparation. Ils l'ont focalisé sur un site qui semble être la place de Strasbourg. Voilà. Donc la place de Strasbourg doit être breton-bretonne. Hein, avec du granit de Fougères, avec du granit de Lan-et-Lin et avec du granit du Helgoat. Il doit y avoir, mais je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Si vous voulez. Et alors autrement, ce qui est intéressant, c'est que tout à fait en amont de toute la voirie que l'on a vu faire, à la fois la plateforme sur laquelle circule le tramway, et puis les quais, les bordures, les machins, tout ça, les petits pavés, tout ça a fait l'objet d'un travail par un architecte en amont considérable et extrêmement sensible dans l'approche pour des raisons, je dirais, de paysage urbain, d'ambiance minérale, de couleur, selon qu'il pleuve ou qu'il y ait du soleil, selon aussi un aspect de sécurité, pour distinguer, pour qu'il y ait une rugosité, il ne faut pas que ça glisse, qu'il y ait une certaine rugosité, et aussi une différence entre ce qui relève du domaine du tramway, où on ne passe pas piéton, et ce qui est pour les piétons, qui n'est pas tramway. Quoi, hein. Donc tout ça, voilà. Donc avec des matériaux naturels qui sont du granit qui, vous l'avez vu, est mis souvent en parquet. Vous avez vu, c'est des petites lames comme un parquet, ou bien en bloc plus important dans les bordures, dans les quais, etc. Et puis en plateforme de ciment, hein, de béton en fait, qui est lavé en surface pour faire apparaître, voilà. Et ben vous regarderez ça en détail. Donc moi je vais faire ça très en détail et puis je vais écrire quelque chose dessus pour l'expliquer à tout le monde. Il y a un petit peu de pelouse par endroit, ouais. Ouais. Et c'est pas plus mal d'ailleurs. Hein. C'est bien, c'est vert, c'est impeccable. On peut camper aussi dessus de temps en temps. Et donc dans ce béton lavé, vous serez attentif et vous verrez entre ce qui relève de la plateforme du tramway et ce qui relève des piétons, ça n'a pas exactement pareil. Et dedans, il y a en inclusion du vert pilé. Il y a du vert pilé, il y a des petites nuances de bleu, etc. Voilà. Et ça, donc j'ai commencé à gratouiller ça, à m'intéresser à ça. Donc j'ai rencontré l'architecte qui d'ailleurs faisait deux balades là, avec la paysagiste végétale. Et bien tout ça, ça a été extrêmement réfléchi, extrêmement travaillé pour composer la nature, le rapprochement des granulats qui font ces bétons, avec les différentes couleurs qui venaient de telle ou telle carrière. Un travail incroyable. Quand elle m'a raconté tout ça, quelqu'un qui n'est absolument pas brestois, hein, qui était là dans le bureau d'études, machin, qui a fini et qui a travaillé ça avec une sensibilité, un engagement pour la satisfaction des Brestois, j'ai trouvé quelque chose considérable. Et donc, je pense qu'il faut écrire ça. Donc, on va écrire ça, mais il faut que les Brestois le sachent. Quoi.
Je veux dire un mot.
Ah non, non, tu ne veux pas
30
dire.
Secondes.
Non, ben vas-y, dis comme ça, secondes. dis comme ça.
Tonnerre de Brest.
Voilà.
De la rue de Siam à Jean Jaurès. Et toutes ces nuits d'ivresse.
Voilà. Merci.
Mais pourvu que la pluie cesse.
Oui, ben ça va.
Tonnerre attends, de Brest.
Attends, j'ai encore un mot à dire. Et alors, donc, dernier élément de cette sensibilité, si vous voulez. Je vous ai dit tout à l'heure que je pensais que l'architecte, qui s'appelle Michel, je crois, oui, je ne sais plus, enfin, qui est de l'église Saint-Louis, avec un lien avec la pierre de Logonade ici. Eh bien, l'architecte qui a travaillé sur le tramway avait évidemment repéré la présence très particulière, très originale par la couleur, etc., de cette pierre d'Ambresse, qui ne correspond pas aux autres couleurs de Brest. Et donc, elle l'a retenue de façon extrêmement discrète dans les aménagements du tramway. Alors, je vous invite à la rechercher. Vous allez retrouver la pierre de Logona dans les stations, enfin, sur le sol des stations. Et vous verrez, donc, sur les plateformes qui sont je ne sais plus en quoi c'est, les plateformes. Enfin, vous verrez que sur les plateformes, il y a des petits bandeaux filants avec des petites lames de parquet de couleurs différentes. Et c'est mis comme ça un petit peu de façon espacée. Et ce n'est pas n'importe quoi. Ça signifie la cinétique, le mouvement du tramway. On sait ou on ne sait pas. Hein. Bon, c'est blavé. Et dedans, vous verrez que dedans, il y a régulièrement un petit rectangle de pierre de Logona. Voilà. Et donc c'est volontaire. C'était son lien, en fait. Vous voyez que donc tout ça est assez intéressant. Hein. Vous voyez que donc dans l'histoire, les matériaux locaux, puis on va de plus en plus loin selon les problèmes, hein, selon les souhaits, les demandes du maître d'œuvre, selon le projet aussi urbain que l'on a, et puis avec aussi lié aux capacités des bassins de roches, des carrières à fournir. Si un chantier, il faut pouvoir fournir la quantité. Hein. Et selon les techniques qui sont demandées pour la mise en œuvre. Hein, de la roche massive, de la roche taillée à la main, de la roche en plaquette. Bon, tout ça est extrêmement différent. Et donc avec aussi la dimension économique qui fait qu'aujourd'hui, on passe des marchés et qu'on est aussi pour les pierres, c'est la mondialisation. On peut répondre alors j'allais dire d'Australie, sans doute pas d'Australie. Et pourquoi ? On va rester jusqu'à 8 heures. Et pourquoi ça va être la Chine et peut-être pas la Nouvelle-Zélande pour des quantités comme cela, hein, sur des quantités comme cela, pour une raison qui m'est apparue dans la discussion là, de mes contacts sur le tramway et autres, parce que d'abord, les Chinois, ils travaillent longtemps, beaucoup, pour pas cher. Ils se lèvent la nuit encore pour finir ce qu'ils n'ont pas fait le soir. Donc, avec un coup de main-d'œuvre qui n'est pas cher, donc voilà. Mais la pierre chinoise sert de l'Est à tout le commerce de conteneurs du Sud-Est asiatique. Sur ces conteneurs, vous avez vu ces piles de conteneurs sur les bateaux, et dans le conteneur, c'est pas forcément des choses lourdes. Donc, pour lester tout ça et que ça tienne, ils mettent du caillou. Donc, en fait, le caillou, il vient pour rien. Donc il est produit sur place pour peanuts et il vient pour rien. Et vous savez qu'un t-shirt vient de Sud-Asie asiatique pour 1 centime d'euro. Comment voulez-vous faire un t-shirt dans les Vosges ou en Corrèze, même avec les subventions qu'ils auront, avec un précium de l'oris comme ça au départ. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, donc c'est assez. Donc, on peut guère lutter. Et donc, il faut savoir que donc ce parquet là de granit a été posé par l'entreprise Jardin Service. Et il y a un gars de Jardin Service qui a été des semaines, pour pas dire des mois, en Chine pour choisir les carrières. Pour avoir les bonnes nuances que l'architecte voulait. Et il envoyait des échantillons à l'architecte, donc Claire, non, comment ça s'appelle, enfin, pour l'architecte, quoi. non, parce qu'elle était là ce matin, là. Voilà. Il lui envoyait, elle disait, non, celui-là, trop foncé. Ah non, celui-là, trop clair. Parce que vous avez vu que le parquet, c'est pas tout pareil, et il y a des nuances. Et ces nuances-là, elle les a voulues pour le coup de soleil, le coup de flotte, la réaction. C'est vachement intéressant. Il faut que ce soit écrit, ça. On va l'écrire. Et elle est d'accord, elle va l'écrire. Parce qu'après, elle a fini, là. Elle va faire un autre chantier avec son bureau de machin. Elle part à La Réunion. Donc après, Brest, c'est un dossier qui se ferme pour elle. Donc,
c'est intéressant, les œuvres d'art.
Oui, oui, c'est très bien. Donc je l'accroche, je tiens bon. Et alors, je ne vais pas la confesser pour écrire moi. Il faut qu'elle écrive ça, elle. Quoi.
Que ce ne soit pas une rumeur.
Voilà, voilà. Et qu'on dise, voilà. Hein. Et que donc, tout vient de Chine, sauf les plaquettes de Logona, les pierres du rose. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop embêté. Bonne soirée. Allez voir la pierre de Logona sur la station ce matin et sur les autres. Et puis, bon vent, bonne mer. Donc, si ça vous intéresse, vous trouverez chez Dialogue Promenade géologique à Brest, qui est un petit fascicule à mettre dans la poche format guide Michelin, là, les guides verts, qui est vendu 4 euros au bénéfice associatif. Donc, voilà. Je suis Max Jonin. J-O-N-I-N.